Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. 472 nouveaux décès à l'hôpital en 24 heures et autant d'entrées en réanimation. Les chiffres se ressemblent de jour en jour dans la crise et la lutte contre le Covid-19. Le Premier ministre Jean Castex prendra la parole demain soir. Dans le Haut-Karabakh, quel rôle a la Turquie? 24 heures après la signature d'un cessez-le-feu entre Azerbaïdjan et Arménie, Ankara se frotte les mains en coulisses, vous le comprendrez. Nous irons aussi au Soudan pour constater l'arrivée massive d'Éthiopiens qui fuient les combats dans leur pays en ce moment. Et puis retour en fin d'édition sur l'histoire du plus célèbre des soldats inconnus sous l'Arc de Triomphe à Paris. Son corps était choisi il y a très exactement 100 ans, le 11 novembre 1920. Aujourd'hui, l'écrivain de la Première Guerre mondiale, Maurice Genevoix, entre au Panthéon. Le Premier ministre Jean Castex s'exprimera donc demain soir pour faire le point sur l'épidémie de Covid-19 en France. Une prise de parole qui sera surtout pédagogique, nous dit-on à Matignon, car il est encore trop tôt pour proposer un assouplissement du confinement. C'est ce que Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, estimait déjà hier midi à l'issue du Conseil des ministres.
La situation évolue, nous avons des chiffres au jour le jour et il est très important de tenir compte d'une dynamique sur plusieurs jours plutôt que sur les chiffres d'une seule ou de quelques journées. Il faut être extrêmement clair et transparent. Aujourd'hui, il semble très tôt pour proposer un assouplissement des règles qui ont été fixées. La situation reste grave, l'épidémie continue de gagner du terrain, le taux de reproduction du virus, le fameux R est toujours au-dessus de 1, la situation dans nos hôpitaux extrêmement difficile et va continuer à l'être davantage dans les jours à venir. Ce sont évidemment toutes ces données qui seront regardées et prises en compte pour les décisions que nous serons amenés à annoncer ce jeudi.
Et déjà hier, mardi, des personnels d'éducation faisaient grève sanitaire pour protester contre le protocole dans les établissements scolaires. Elle a été, cette grève, peu suivie selon le gouvernement qui relève un taux de 8,8% grévistes dans le primaire, un peu plus de 10% dans le secondaire. Le double au moins, répondent les syndicats. En Grèce, les lycées et les collèges, les universités sont fermés depuis lundi. Annonce précipitée quelques jours plus tôt face à l'avancée de l'épidémie de Covid-19 dans le pays. Mais après le scandale des masques trop grands distribués dans les écoles grecques, nous retrouvons notre correspondante à Athènes car ce sont maintenant les cours par internet qui bloquent, Angélique Kourounis.
Et les parents n'ont eu que 48 heures pour s'organiser, acheter des ordinateurs et des répétiteurs internet pour renforcer leur réseau à la maison. Seulement voilà, depuis ce lundi, premier jour de la rentrée virtuelle, la plateforme Webex de l'enseignement à distance s'est totalement effondrée. Les élèves n'ont pas pu travailler ni même se connecter. Les instructions techniques qui apparaissaient sur l'écran étaient en anglais, une langue que les élèves de 6e, 5e et même 4e ne dominent pas. Par ailleurs, le réseau très sollicité entre le télétravail des parents et les cours des élèves en même temps a implosé. La presse unanime parle de fiasco. Cela n'empêche pas la ministre de l'Éducation, la très controversée Niki Kerameus, de déclarer, je cite, que le système Webex gratuit est un très bon système qui fonctionne. Ce mardi, une partie des élèves a pu se connecter, mais pas la plupart des professeurs. Et l'opposition demande désormais que la convention passée avec Webex, unique fournisseur choisi par le gouvernement, soit rendu public d'une part pour savoir si ces services sont vraiment gratuits et d'autre part pour savoir si les données personnelles des élèves et des étudiants sont fichées. Le gouvernement refuse et assure que très prochainement, tout va rentrer dans l'ordre.
Angélique Kourounis pour France Culture. Les États-Unis ont encore tristement battu hier leur record quotidien d'infection au SARS-CoV-2 avec plus de 200 000 cas en 24 heures. Le gouvernement de Donald Trump souhaite, dans ce contexte, invalider entièrement la loi phare de Barack Obama sur l'assurance maladie. La Cour suprême des États-Unis s'est toutefois montrée peu encline à suivre Donald Trump. Quand l'Azerbaïdjan fête la capitulation de son rival arménien, Erevan pleure une défaite historique dans le Haut-Karabakh. Selon le cessez-le-feu signé avant-hier, Bakou récupère une partie de cette région, dont la deuxième ville, Chouchi. Les séparatistes arméniens, eux, gardent le contrôle de la capitale, Stepanakert, et un étroit corridor qui les relie toujours à l'Arménie. Dans cette victoire de l'Azerbaïdjan, la Turquie a joué un rôle militaire. C'est ce que nous expliquait hier soir Gaïds Minassian, enseignant à Sciences Po, spécialiste du Caucase, invité du journal de 22h de France Culture.
La différence entre cette guerre-là et la guerre précédente, c'est qu'on a fait intervenir de manière massive les drones Bayraktar turcs qui ont fait la différence et qui ont également fait la différence en Libye, plus l'irruption de 2000 à 3000 djihadistes proches de la Turquie dans le cadre d'une armée professionnelle et bien équipée qu'est l'Azerbaïdjan. Vous rajoutez aussi l'armement israélien, donc il y avait une sorte de coalition Azerbaïdjan, Turquie, Israël et djihadistes, un attelage baroque, je ne vous cache rien. Et forcément, l'Arménie, qui a mené une guerre du XXe siècle et pas du XXIe siècle, eh bien, a perdu au bout de 6 semaines de combat.
L'Arménie n'était pas au niveau militairement pour s'opposer à l'Azerbaïdjan ?
Effectivement, l'Arménie a mis en place une armée de contre-attaque dans le strict cadre soviétique, c'est-à-dire artillerie et blindés, au lieu de mettre l'accent sur une armée d'attaque, c'est-à-dire une aviation et des drones. Et donc, elle paye cette défaillance stratégique fondamentale en croyant que les montagnes lui servaient de rempart. Ce qui est peut-être vrai dans le cas d'une guerre traditionnelle, mais dans les guerres modernes avec les drones, ce n'est plus le cas.
Des propos recueillis par Stanislas Vazak. Cela fait une semaine que les combats font rage dans le nord de l'Éthiopie. Le Premier ministre a en fait lancé une opération militaire contre les forces du Front populaire de libération du Tigré, qu'il décrit comme une junte criminelle. Mais pendant ce temps, des milliers d'Éthiopiens affluent déjà vers le Soudan pour quitter les combats. Les précisions à Khartoum d'Eliott Brachet.
La situation est chaotique à la frontière éthiopienne alors que les autorités soudanaises ont été débordées lundi par un afflux de déplacés. Ils sont environ 2500 Éthiopiens à s'être réfugiés dans la localité d'El Fachaga, à l'est du Soudan, selon des sources humanitaires et des témoins sur place. Parmi eux, on retrouve des civils tigréens qui fuient les combats, mais aussi des Amaras, une autre ethnie éthiopienne, ainsi que quelques soldats de l'armée régulière. Il est encore difficile d'y voir plus clair à ce jour. Depuis hier, l'armée soudanaise, déployée à la frontière, reprend peu à peu le contrôle. Elle affirme réguler les nouvelles arrivées, laissant rentrer les civils, mais refoulant toute personne portant un uniforme militaire. Le Croissant Rouge soudanais a été autorisé à intervenir de l'autre côté de la frontière pour soigner des blessés. Et côté soudanais, l'agence de l'ONU pour les réfugiés a ouvert un centre d'accueil d'une capacité limitée, 250 places, trop peu pour faire face à la crise. Plusieurs opérations vont être déployés pour apporter une assistance d'urgence dans la région. Et dans un deuxième temps, les autorités soudanaises envisagent de rediriger ces milliers de déplacés vers le camp de réfugiés de Chagarab, un camp qui abrite déjà quelques 40 000 érythréens.
Et Eliott Brachet pour France Culture. Au Pérou, le chef du Parlement prend le poste de président après la destitution de Martine Vizcarra, le tout sur fond de manifestations dans la capitale Lima. Nous reviendrons sur cette actualité péruvienne dans les enjeux internationaux à 6h45. Avec Julie Gacon dans moins de 10 minutes. Avant cela, la traditionnelle cérémonie de l'armistice en ce 11 novembre. Emmanuel Macron présidera aujourd'hui l'entrée au Panthéon de l'écrivain Maurice Genevoix. L'occasion d'honorer tous les combattants de la Première Guerre mondiale. Ce matin, le chef de l'État sera aussi sous l'Arc de Triomphe à Paris, là où, il y a 100 ans très exactement, le soldat inconnu était choisi par l'un des siens, Nathalie Hernandez.
C'est un choix difficile que va devoir faire le jeune soldat de deuxième classe, Auguste Thin, 21 ans, survivant de la bataille de Champagne. Il se retrouve dans la citadelle de Verdun devant 8 cercueils, tous identiques, de camarades tombés sur les grands fronts. Des dizaines de milliers d'entre eux ne seront d'ailleurs jamais identifiés. Il va falloir en désigner un, raconte le conservateur du service historique de la Défense, Jean-François Dubos.
Il faut imaginer Auguste Thin un peu déstabilisé par cette demande. Pour matérialiser son choix, il doit déposer un petit bouquet de bleuets sur celui des cercueils qu'il aura retenu. Auguste Thin ne sait pas comment choisir et il a une idée. Il appartient au 132e régiment d'infanterie. Il additionne les chiffres qui composent son unité et donc il va désigner le 6e cercueil en déposant le bouquet sur celui-ci.
La dépouille du soldat inconnu va ensuite quitter Verdun pour Paris. Avant de rejoindre l'Arc de Triomphe, son cercueil va accompagner le char qui transporte le cœur de Léon Gambetta au Panthéon pour le cinquantenaire de la République. Tout un symbole, explique Jean-François Dubos.
Symboliquement, ce ne sont pas des anonymes qui vont voir les grands hommes, mais les grands hommes qui ont rendu un hommage muet à cet anonyme qui est passé parmi eux. puis qui est ressorti du Panthéon pour être amené à l'Arc de Triomphe.
Désormais, ces poilus anonymes vont avoir aussi une place aux côtés des grands hommes grâce à l'entrée au Panthéon de l'un d'entre eux, l'écrivain et auteur de Ceux de 14, Maurice Genevoix.
Entrée prévue à 18h ce soir après un discours d'Emmanuel Macron. La météo très rapidement aujourd'hui, c'est assez simple. Il y a du brouillard et des nuages bas un peu partout. Avec 8 degrés à Strasbourg ce matin, 10 à Lille et Paris, 15 à Nice.